Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non. Oui, on...
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama. Bonjour Manu, bonjour Marine.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Et on va tout de suite développer ce sommaire. Toi Marine, tu as vu deux comédies.
Deux comédies françaises même, oui. J'ai vu Sous le même toit, la nouvelle comédie de Dominique Farrugia, et Le jour J, une comédie réalisée et interprétée par Rim Kérissi, qu'on va également entendre en interview ensuite.
Et un petit aperçu d'ailleurs de cette interview.
Ah, Nicolas Dubochel, ah mon Dieu, mais un film avec Nicolas Dubochel, hein, mais moi si j'y vais.
Voilà. Restez avec nous.
C'est ça. Et toi, Manu ?
Eh bien, j'ai vu Gold, un film du scénariste de Trafic, et puis 11 minutes du vétéran Jerzy Skolimowski.
Et quant à moi, eh bien, j'ai vu un film sud-africain de John Trengove, Les Initiés. Et puis, eh bien, si on a le temps, je vous parlerai des Gardiens de la Galaxie, le deuxième opus, parce que ce n'est pas forcément un film qui a besoin de tant de publicité que ça. Et voilà, on va commencer ce cinérama avec la comédie française.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
On commence avec Sous le même toit. Dominique Farrugia avait réalisé en 1996 Delphine 1, Yvan 0, une histoire d'amour moderne qui était commentée comme un match de foot par Thierry Roland. 20 ans après, il retrouve ses personnages Yvan et Delphine pour continuer le match en quelque sorte, et ces personnages ont désormais quelques déboires conjugaux. Delphine et Yvan donc décident de se séparer après 15 ans de vie commune, enfin Delphine surtout hein, décide de se séparer d'Yvan, et ce dernier, toujours dans une situation professionnelle plus qu'instable, hein, se retrouve à la rue. Alors cela pourrait être le début d'un drame social ancré dans des problématiques post-crise financière. Évidemment, cela va plutôt être la base d'une comédie autoproclamée générationnelle, puisqu'Yvan va réussir à revenir habiter sous le même toit que son épouse, alors qu'elle-même compte bien profiter de sa nouvelle vie de célibataire.
Vous vivez toujours ensemble ? Beaucoup de couples divorcés vivent sous le même toit. Ah, c'est monnaie courante.
Je possède 20% de cette maison. Tu m'achètes mes 20% ? Où je viens habiter dans mes 20%.
Non mais papa va vraiment revenir ici ?
Vous pouvez pas divorcer comme tout le monde, non ?
Oh, Violette, tu reviens tout...
Je m'en occupe.
Oui, voilà, fais ça.
Vous avez des problèmes conjugaux ?
Oh, c'est bien ce que t'as fait là, sans frigo.
De quoi ?
Bah, de virer ma photo.
Non.
Moi, je trouve ça génial.
Tu verras aucun inconvénient à laisser ta chambre à ton père ?
Quoi ?
Ouais.
Tu peux venir voir ? Tu viens voir tout de suite. Tout ce qui est là, t'y touches pas.
Ça,
c'est ta partie. 20% de la maison, 20% du frigo.
Voilà, on dirait un mauvais papa ou maman. Vous savez, la comédie réussie avec Marina Foïs et Laurent Lafitte, bah vous prenez toutes les qualités du premier et vous les transformez en défaut. Et vous obtenez Sous le même toit. Alors, l'interprétation est vraiment calamiteuse. Hein. Louise Bourgoin nous sort son grand rire toutes les 5 minutes pour meubler. Les enfants du couple sont horribles. On a envie de les abandonner sur le bord d'une route. On croit au début en fait, qu'ils jouent des enfants handicapés. En fait, pas du tout. Vraiment, c'est un peu un problème. Mais alors, par contre, je dois reconnaître que Gilles Lelouch s'en sort plutôt bien. Ça m'ennuie vraiment de le dire. Mais pour réussir à être bon dans un film pareil, il faut vraiment être un acteur doué. Malheureusement, bah, il campe un mec tellement immonde et tellement beauf. Alors ça, je ne sais pas si c'est volontaire, qu'on se demande vraiment pourquoi Louise Bourgoin est avec lui. Enfin, en fait, leur couple, on n'y croit pas du tout. De toute façon, c'est une erreur de casting monumentale. Ils sont quand même censés avoir le même âge. Hein. Ils ont juste 10 ans d'écart. Comme quoi, le cinéma français est vraiment cruel envers ses comédiennes. Si vous avez le malheur, comme Louise Bourgoin, d'avoir gardé quelques kilos suite à une grossesse, vous passez des rôles de trentenaire séduisante au rôle de quadragénaire fatigué. Voilà, on vous fait jouer des personnages qui ont 10 ans de plus que vous. Alors, les premières scènes du film quand même nous laisse espérer un humour noir, caustique, une comédie familiale vraiment méchante, vraiment impertinente. Mais non, passé les premières scènes qui sont plutôt percutantes, il y a notamment une apparition de Farrugia lui-même qui est très réussie, le soufflet retombe et tout le reste de la comédie sera très très poussif. Autant Monsieur et Madame Adelman de Nicolas Bedos parvenaient à nous émouvoir et à nous faire rire, autant ici les protagonistes sont profondément détestables. Du coup, eh bien, le film rate complètement sa cible, hein, comme quoi on peut être dans l'air du temps et en même temps complètement à côté de la plaque.
Mais j'ai pas compris, c'était une suite de Delphine 1, Yvan 0 ?
Non, alors c'est juste officieux, enfin ce n'est pas c'est du officieux. Tout une voilà, non. c'est juste
Julie
qu'il
Gayet
reprend
qui jouait
exactement, mais en fait, je pense qu'il reprend les mêmes problématiques de couple mais transposées eh bien voilà, non pas au début d'une histoire d'amour mais 15 ans après et pas du tout en effet avec les mêmes comédiens, pas du tout.
Bon ben voilà, Marine 1, Comédie Française 0 pour l'instant, tu reviens tout à l'heure pour Jour J et on va passer à Skomilowski.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Et c'est pas vraiment une comédie, hein. Non. Plutôt très 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 noir. Alors le projet du nouveau film de Jerzy Skolimowski, un génial réalisateur de Travail au noir et du récent Essential Killing avec Vincent Gallo, peut se résumer ainsi. 1h21 pour raconter une tranche de vie d'une vingtaine de personnages sur 11 minutes, le temps qu'il faut pour les regrouper au même endroit pour un final explosif, dantesque, croisement insensé entre destination finale et l'abstraction survoltée d'un Antonioni période Zabriskie Point. Alors présenté à la Mostra de Venise en 2015, le film ne sort qu'aujourd'hui sur les écrans, un peu à la sauvette avant le Festival de Cannes, hein, curieux tout de même de reléguer un cinéaste d'une telle importance en arrière-plan, bon pour les fonds de tiroir. Alors soyons clairs, 11 minutes n'est pas un film aimable, hein. C'est une chronique elliptique, tranchante, d'une misanthropie excessive et assumée. Alors tel un entomologiste, hein, le Polonais observe ses contemporains avec une telle froideur clinique que certains parleront de mépris. Alors un vendeur de hot-dog prié de ne pas s'approcher des écoles, on se demande pourquoi. Un réalisateur pervers faisant passer une audition à une jeune actrice mal à l'aise, un mari jaloux en surchauffe, un junkie en plein trip, une actrice porno montrant son film à son petit ami, un groupe de bonnes sœurs mangeant des hot-dogs, une punkette perdue promenant son chien. Bref, la galerie de personnages est dans l'ensemble, à quelques exceptions près, peu reluisante. Alors si par bonheur en ce moment, pour des raisons que je ne dévoilerai pas, vous êtes d'humeur assassine, le film peut faire un bien fou, tel un antidote revigorant au prêt-à-penser, au politiquement correct, à l'humanisme dégoulinant et au bon sentiment. Alors on dirait du Michael Haneke survolté, pris d'une sorte de frénésie d'aller vers l'essentiel, quitte à tirer sur l'ambulance. Ou du Robert Altman, période Shortcuts, débarrassé de toute considération psychologique et sociologique. Shortcuts durait quand même 3h30 par là, et là c'est en 1h20 hein, que c'est ramassé. Alors certains n'y verront qu'un pensum moralisateur, hein, d'un vieil aigri qui n'a plus rien à démontrer. D'autres, et je penche plutôt de ce côté, hein, jubileront devant un authentique film punk nihiliste jusqu'au bout des ongles, frisant l'expérimentation graphique. Car j'allais oublier l'essentiel, 11 minutes est un moment de pur cinéma, d'une puissance formelle ayant peu d'équivalent aujourd'hui. La puissance d'incarnation des plans et la mobilité de la caméra, alliée à un montage très sec, très, très vif, sont au service d'une narration déstructurée mais d'une évidente clarté. Alors si l'ouverture à une série de scénettes surfant sur la mode du found footage laisse craindre le pire, la suite impressionne. La façon dont Skolimowski, près de 81 ans quand même, hein, c'est pas rien, gère le temps et l'espace est sidérante. L'enchevêtrement des situations éclatées menant vers une sorte d'apocalypse miniature, alors au moins sur le plan métaphorique, est réglé par un orfèvre en horlogerie. Alors dans cet exercice de style extrême, hein, poussant le formalisme dans ses derniers retranchements, il ne faut pas s'arrêter au manque d'incarnation des personnages, hein, marionnettes vivant leur dernier soubresaut d'humanité, au cœur d'une ville, Varsovie, dénuée d'âme, ressemblant à n'importe quelle autre capitale. Ça c'est quelque chose d'intéressant, on se croirait presque aux États-Unis. L'emploi d'ailleurs de l'anglais à plusieurs moments nous éloigne un peu de la Pologne. Hein. Alors dans les années 60, hein, Skolimowski, en cinéaste engagé, racontait la lutte de personnages face à l'oppression d'un système répressif, que ce soit le communisme, le capitalisme ou la société de consommation, avec des œuvres aussi importantes que Le Départ ou Deep End. Avec 11 secondes, hein, il semble nous dire que nous avons perdu. Que
c'est
nous...
11 minutes, hein, quand même.
11 minutes, j'ai dit 11 secondes.
Ah oui,
ça serait rapide.
Réduit encore le
Je l'ai réduit, ouais. 11 minutes quand même. Il semble nous dire que nous avons perdu, hein, que nous sommes rien que des pions avalés par un monde uniformisé. À l'image du dernier plan, hein, multitude d'écrans de surveillance se transformant en pixels, hein, l'homme ne lutte plus pour ses idées, il ne fait que survivre pour foncer droit dans le mur. C'est le regard désespéré de Skolimowski alors peut provoquer le rejet intégral. Il y a eu des critiques assez dures hein, dans plein de journaux. Hein, mais on peut aussi, avec un recul nécessaire, prendre un vrai plaisir jubilatoire à visionner ce jeu de massacre tout de même assez virtuose.
Film noir, donc. Et qui n'a rien à voir avec la deuxième comédie de cette émission.
Bah si, parce qu'on parle quand même d'aller droit dans le mur. Donc voilà, on va parler mariage, on va parler le jour J. Voilà.
C'est le film qui va droit dans le mur, si je suppose.
Qui êtes-vous ?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Chronique, invité et nouvelles du 7e art.
Tu comprends ce que je veux dire ?
Mathias a une liaison d'un soir avec Juliette, elle lui laisse sa carte. Manque de chance, la fiancée de Mathias, Alexia, trouve la carte dans la poche de sa veste. Heureusement ou pas pour ce dernier, Juliette est organisatrice de mariage et Alexia s'imagine donc qu'il préparait en cachette la cérémonie. Mathias se retrouve alors contraint de préparer leur mariage pour de bon, coincé entre sa promise et sa maîtresse et cerise sur le gâteau. Il s'avère que les deux rivales étaient dans la même classe à l'école primaire. Voilà pour le pitch vaudevillesque du jour J. Alors la réalisatrice et actrice principale du film, Rim Kérissi, explique qu'elle a imaginé ce film, vous entendrez plus tout à l'heure dans l'interview, après avoir remarqué qu'il y avait deux profils types de femmes. Le profil A, celles qui ont peur de s'engager et qui se retrouvent seules, et le profil B, celles qui ont peur de la solitude et qui s'engagent vite. Voilà, donc les filles, c'est ça, soit on a peur, soit on a peur, personne n'est célibataire par choix, personne ne se marie par choix non plus, et en plus le pire, c'est que c'est quand même une femme qui explique cela. C'est un peu ça, le point gênant de ce jour J, c'est une comédie qui se veut moderne et qui s'avère vraiment très traditionnelle. Néanmoins, à côté quand même du précédent film de Rim Kérissi, Paris à tout prix, le jour J fait office de chef-d'œuvre. Paris à tout prix, c'est un film assez mal fait, pas drôle du tout, régi selon des ficelles très grossières. Pour son deuxième film, la réalisatrice semble s'être améliorée. La mise en scène est efficace, les dialogues aussi, les acteurs sont crédibles. On retrouve d'ailleurs à l'écriture du script Philippe Lachaud, auteur de Babysitting et membre de la bande à Fifi, dont faisait aussi partie Rim Kérissi, ce qui explique peut-être le rythme excellent du film et son comique de situation imparable. À noter l'avènement d'un acteur de comédie que l'on n'aurait jamais pensé trouver autant à l'aise dans ce registre, Nicolas Duvauchel, qui a abandonné ses manières de jeune homme tourmenté et qui s'avère ici très crédible. Alors le jour J, c'est une comédie à la fois girly et trash, et le mélange est réussi, mais à trop vouloir faire dire à ces jolies interprètes des phrases outrancières telles que « j'ai l'impression de m'être faite biffer par Iron Man », on a parfois l'impression d'assister à une surenchère, de voir une comédie de filles qui voudraient faire comme des mecs et qui ne prendraient vraiment pas le meilleur chez leurs confrères masculins. Et puis alors le film parle de revanche sociale en mettant sur un piédestal les femmes indépendantes, qui s'en sortent sans avoir besoin de leur mari ou de leur père, c'est très bien. Mais si on veut faire une comédie féministe, pourquoi nous montrer une héroïne qui est coiffée dès qu'elle sort de son lit et qui change de robe trois fois dans la même scène ? Le film ressemble souvent à un défilé de mode et c'est assez agaçant. Finalement, c'est bien ça, le souci majeur de Rim Kérissi. Elle a beau porter des chaussures hors de prix, elle ne sait pas sur quel pied danser. Et elle s'en mêle les pinceaux dans des valeurs qu'elle veut défendre. Il en résulte une comédie pas vraiment foirée, mais complètement contradictoire.
Et pour le coup, on va l'entendre bien parler de son film parce qu'elle nous dit qu'elle a l'ADN de la comédie en elle et qu'elle sait réserver aux spectateurs la meilleure des comédies. On l'écoute.
Moi, je t'offre un verre.
Je devais y aller, donc.
Ah non, mais c'est pas une question. C'est qui cette Juliette ?
Je la connais pas.
T'as ta carte dans la poche et tu la connais pas ? Tu te fous de ma gueule ?
Bah, je sais pas, c'est juste une fille qui...
Non, voilà, c'est une fille qui organise des mariages. On va se marier.
J'ai regardé The Wedding Planner pour m'assurer de ne pas faire la même chose qu'un film qui a déjà été fait. Et surtout, en plus, Wedding Planner, c'est vraiment un film à l'eau de rose. Vous avez vu Jour J, c'est un petit peu trash, il y a des bonnes vannes, ça sert les garçons comme les filles. Et donc, ouais, l'idée, c'était vraiment d'essayer d'être surprenante à tous les niveaux. À commencer par un pitch qui... La seule chose qu'on a en commun avec Jennifer Lopez, au-delà de notre beauté, c'est le fait d'être wedding planner, mais c'est juste le métier. Après, la manière dont le film est tourné, les blagues, même il n'y a pas de quiproquo, elle tombe amoureuse du mec dont elle organise le mariage au bout du deuxième tiers du film, alors que nous, c'est beaucoup plus moderne. Au bout de la première minute, bam, dans la charrette.
Tu vas préparer ton mariage avec ta meuf et ta maîtresse. T'es mon héros, toi.
Si Alexia l'approche, j'ai un homme mort.
Je vais te faire griller. Hein. T'es pas prêt à jouer dans la mythozone.
Tu vois pas que je suis malheureux?
Mais c'est parce que t'encules pas.
T'encules pas.
J'encule pas qui?
T'en culpabilité avec Alexia.
Ah ouais, ok, ouais, d'accord, ouais, je t'encule pas.
C'est des ressorts de comédie qui fonctionnent et la difficulté quand on fait une comédie qui plus est romantique, c'est d'être obligé de rentrer dans des codes et de les détourner. Et donc du coup, évidemment, il y a des rendez-vous qu'on peut pas rater. Quand c'est un triangle amoureux, on se doute qu'il va y avoir un triangle amoureux. Maintenant, c'est comment on va surprendre le spectateur, les journalistes, avec un casting, une fin. Là est l'enjeu en tant que scénariste, justement.
On commence à 14h pile par le maquillage. 15h, séance photo, le mari va être stressé, donc un peu palo.
Je suis complètement stressé.
Dans Paris à tout prix, c'était le même message, c'est croire en ses rêves, se battre, travailler. Et qu'on a finalement besoin de personne. On n'a pas besoin d'un mec qui nous paye nos factures, on n'a pas besoin d'un mec qui nous entretient, qui nous dise comment faire. Et pareil, on n'a pas besoin d'une femme pour nous dire quoi faire, pour ranger ses... Et on est encore tellement plus fort une fois qu'on est accompli, pour pouvoir trouver sa moitié, même si moi je considère que je suis une personne entière et que j'ai pas besoin d'une moitié. C'est deux personnes entières qui se retrouvent, et à deux, on est nettement plus fort pour créer une famille, pour faire plein de belles choses. Mais c'est un message très personnel et vraiment important. Tu vois, c'est pour ça, encore une fois, que le mariage, c'est un prétexte, mais c'était travailler, croire en ses rêves, pas lâcher l'affaire. Et peu importe d'où on vient, l'important, c'est de savoir où on veut aller. J'ai pas la prétention, tu vois, de vouloir être le porte-parole d'une génération, mais en tout cas, à mon niveau, avec la manière dont je travaille, c'est-à-dire en inventant des choses de mon imaginaire, en voulant divertir, j'essaye aussi de pouvoir laisser quelque chose derrière moi qui est pas juste léger.
17h pile, juste après le baiser, ma mère envoie la musique de fin.
Qu'est-ce qu'elle fout, ta mère ?
Ouais, maman, dis-moi, je peux savoir ce que tu fous encore connecté sur mon compte Facebook ?
Mais je drague. Ah, je viens d'avoir un beau petit message.
Ça veut dire quoi, tub ?
Quoi ? Non, mais t'arrêtes immédiatement, là ! Quand on fait une comédie romantique, on connaît la fin, on connaît les rendez-vous, et à un moment donné, il faut que je surprenne mon spectateur. Si à un moment donné, tu vois un acteur dans 25 rôles, à la fin, t'as l'impression d'avoir déjà vu le film, tu vois. Et là, je me suis dit, Nicolas Duvauchel, on l'a jamais vu en comédie. Il est extrêmement séduisant, il est très drôle, il est très viril. Il y a plus d'une nana, moi je vous le dis, hein, sur les réseaux sociaux qui me dit « Ah, Nicolas Duvauchel, ah mon Dieu, mais un film avec Nicolas Duvauchel, hein, mais moi si j'y vais !» C'est un excellent acteur. Et là, lui, il avait le challenge de faire un emploi dans lequel on ne l'a jamais vu. Et moi, j'avais le challenge de le mettre en valeur dans un rôle dans lequel on ne l'a pas vu et de le rendre crédible. Parce que Nico, à un moment donné, il a 20 ans de carrière où il a toujours joué un peu les durs, les loubards, les méchants, les machins et tout. Moi aussi, c'est un challenge de le diriger, lui dire « Attention, là, dans ta diction, on sent que tu viens d'un milieu qui n'est pas celui que je veux. Attention, là, sois souriant. Mets du sourire dans tout. Mets du sourire dans tout, dans tout, dans tout. » Parce que dans la vie, évidemment, il est un peu plus ours, quoi. Et il fallait l'illuminer.
Ah, c'est Ben !
Alors, vous avez rebaisé ?
Mais de qui il parle ?
De toi, de nous. Ah ouais, je dis que j'étais un peu stressé.
Mon amour, je t'ai sucé hier.
Alors, j'ai un ADN comique. C'est sûr, j'adore. J'adore faire rire et puis je connais les codes de la comédie dès lors que je lis quelque chose parce que je l'écris.
Les mecs, ils sont cons, ils flippent. Alors pour se rassurer, juste avant de se marier, ils sont prêts à sauter sur la première grosse pute venue. Tu vois ? Oui.
Et voilà, c'était Rim Kérissi, donc, avec son ADN de la comédie. Et ce sera à vous d'en juger, puisque le film sort en salle le 26 avril.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Nous allons parler maintenant des initiés, les initiés de John Trengov. Au premier abord, quand on regarde Les Initiés, film sud-africain se déroulant dans la communauté noire et prenant pour sujet l'homosexualité et ses tabous, on se dit que cela ressemble fort à Moonlight, l'Oscar 2017 du meilleur film. Mais si les deux longs métrages partagent leur sujet et la couleur de peau de leurs interprètes, il y a une différence de taille, ou plutôt de peau. L'un est réalisé par un noir, l'autre, Les Initiés, dont je vous parle aujourd'hui, est réalisé par un blanc. C'est pourtant dans la communauté noire que le réalisateur John Trengov instaure son récit. Le temps de nous montrer le travail répétitif de Xolani, ouvrier solitaire, nous voilà ensuite plongés dans les sous-bois au cœur d'une cérémonie initiatique de l'ethnie Xhosa. En très peu de temps, nous avons connu deux univers, la ville et celui bien éloigné des rites dans lequel nous allons rester eh bien, jusqu'à la fin du film. Alors le personnage que nous suivons, Xolani, est un instructeur. Il doit veiller sur un initié qui fait partie des quelques adolescents placés à l'écart de la communauté pour être circoncis. Et une fois opéré, alors un peu brutalement, ça peut gêner quelques spectateurs masculins. Donc une fois opérés, eh bien ces garçons devront rester sous la surveillance de leur instructeur le temps que tout cela cicatrise. Alors initialement, le rite du passage à l'âge adulte était celui d'un village entier, mais n'est maintenant que le prétexte, même pour les plus urbains, à retrouver eh bien, ses racines. C'est le cas de Kwanda, un jeune homme qui est mis entre les mains de Xolani par son père. Son projet est simple et conforme à la tradition. Il veut faire de son fils un homme. Le père avec un 4x4, lui avec des baskets aux pieds, il est à part dans ce groupe de garçons. Mais ce n'est pas tant sa situation sociale qui certes lui attire quelques ennuis, que son éveil de conscience qui va provoquer le malaise. Alors si les initiés ont l'air quelque peu perdus, jetés là par leur père, déjà passés par ce rite de circoncision, les instructeurs semblent rejoindre avec plaisir leur communauté. C'est d'autant plus le cas de Xolani, dont le quotidien laborieux et solitaire n'est rompu que par cette période où il peut revoir un ami d'enfance devenu comme lui instructeur, Vidja. Alors voilà autour de qui va tourner les initiés. Au début, l'image peut apparaître documentaire, mais le réalisateur va nous emmener dans une autre direction. Avec les initiés, on finit par entrevoir une romance. Le moment du rite est le moment choisi par les deux instructeurs, Xolani et Vidja, pour s'étreindre et ne plus se revoir jusqu'à l'année suivante. Il y a quelque chose de très fort quand ces deux corps se cherchent et puis finalement se trouvent. Le réalisateur ne fait surtout pas l'économie du sexe, car il trouve dans ces séquences un autre mode de communication. Les deux amants ont du mal à se dire les choses, d'autant que si Xolani est célibataire et continue à faire croire qu'il pourrait se marier. Bientôt, Vidja, le grand dur, lui, est père de famille. Voilà. Donc, il y a un célibataire et un père de famille. Deux situations et dans tous les cas, deux renoncements à une identité sexuelle dont ne veut pas la société d'Afrique du Sud, un tabou. Les deux amants se cachent tant qu'ils peuvent, mais l'irruption du jeune Kwanda, témoin de leur histoire d'amour, de leur fuite, va faire entrer le film dans une autre dimension encore. Ce jeune initié venu de la ville, ayant reçu une bonne éducation, va faire éclater les non-dits, révéler aux personnages leurs failles, leur hypocrisie. Il se crée alors une tension qui n'est plus la même qu'au début du film, où l'on était avec les initiés. Le sujet a changé, ça n'est plus le rite d'un passage à l'âge adulte, mais l'examen d'une société du non-dit qui enfouit l'homosexualité. Une identité sexuelle que l'on entrevoit au travers d'une histoire d'amour dont on attend qu'elle soit libératrice, mais la pulsation finale, le rythme imposé par John Trengove dans le dernier tiers du film, ordonne une autre conclusion. Filmé caméra épaule, en décor naturel, au plus près des corps, les initiés, dont le titre original est The Wound, la blessure, qui donne pas plus d'indications sur ce qui va se passer, mérite vraiment qu'on s'y attarde sur un même thème que l'oscarisé Moonlight est placé dans une autre société. On s'aperçoit que les mots finalement sont les mêmes. En termes de réalisation, le Sud-Africain John Trengove a tenu à montrer l'acte homosexuel. Alors, ce que s'est refusé à faire Barry Jenkins dans Moonlight, c'était vraiment un acte fort que voulait faire le réalisateur sud-africain, considérant que ça permet à leur personnage de communiquer d'une autre manière, parce qu'on ne peut pas dire que le film soit très bavard, sauf dans sa dernière partie, donc quand le jeune initié montre aux autres personnages qu'ils sont dans l'erreur. Voilà, c'est déjà dans les salles des initiés de John Trengove.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, 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 je vous dis, et même saloperie. Hein.
J'ai fait un rêve. C'était comme un appel. L'appel de l'or. L'or.
L'amour de l'or. Ou la véritable histoire de Kenny Wells, entrepreneur idéaliste, aventurier et accessoirement alcoolique, qui n'a pas peur de gravir des montagnes pour atteindre ses rêves les plus fous. Alors tout comme son père, il ne craint pas de se salir les mains, creuser en somme pour trouver ses fameuses pépites. Ses prises de risques inébranlables l'amènent néanmoins à passer de milliardaire à loser absolu en un temps record. Proche de la déroute, il tente l'impossible, convaincre son ami géologue Mike Acosta d'arpenter l'une des jungles les plus dangereuses du monde en Indonésie. Tout ça pour trouver cet or tant convoité. Dans quel but ? Alors pour se venger de tous ces financiers qui ne lui ont pas fait confiance ou pour s'enrichir ? Un peu des deux, mais aussi et surtout pour le défi que ce périple est pour le métal en lui-même. Alors affrontant les pires épreuves, et notamment la malaria, il finit par trouver le Graal, enfin pas vraiment lui vu son état proche de la mort, mais son associé qui par ses découvertes le ramène à la vie. Dès lors, il devra combattre les requins de Wall Street et déjouer un certain nombre de bassesses et de complots.
En 1988, j'ai perdu ma maison. J'ai tout perdu. La plupart des gens en auraient crevé, mais pas moi. J'ai fait un rêve. Oh mon Dieu. On a une mine d'or.
On a une mine d'or.
On a une mine d'or. Ouais.
Nous pensons que vous avez trouvé le plus gros gisement de la décennie.
On parle de plus de 30 milliards de dollars.
Ça fait quel effet d'être une rockstar?
Il m'est impossible de décrire ce que je ressens. Mais c'est étonnant comment un peu d'or peut tout changer.
Si quelque chose a l'air trop beau pour être vrai, crois-moi, c'est le cas.
Pour le meilleur ou pour le pire, l'aventure avait commencé. Et quelle sacrée aventure!
La grandeur et décadence hein, d'un homme aveuglé par son idéalisme, tel pourrait être le credo de ce film au scénario passionnant, très bien écrit, agrémenté de multiples rebondissements et de tours de passe-passe, jusqu'à un twist final bluffant. Alors, auteur du scénario de Trafic, hein, Stephen Kagan connaît parfaitement les ficelles du métier, et même si on sent de la roublardise dans son savoir-faire, on reste constamment intéressé, à défaut d'être passionné par cette histoire rocambolesque. Et pourtant, objectivement, Gold n'est pas un très bon film, et ce, pour deux raisons. La première, alors surprenante pour certains, hein, tient à la composition outrée d'un Matthew McConaughey, également coproducteur, totalement en roue libre. Alors dès sa première apparition, un malaise s'installe, hein, gras du bide, la calvitie naissante, les dents de travers, un slip kangourou qu'il exhibe quasiment non. Tout... Si, je te jure, hein, assez repoussant, hein, d'ailleurs j'ai bloqué dessus hein, pendant un moment... Alors, voilà, l'acteur, dans un exercice, on va dire, masochiste, proche, paradoxalement, hein, de l'ego surdimensionné, exhibe son corps sans complexe et livre un numéro vraiment éreintant, fatigant. Surjoint la moindre scène, le comédien, qui avait pourtant effectué un retour fracassant avec, entre autres, Killer Joe et Mud, semble atteindre un syndrome courant chez les meilleurs, hein, l'auto-parodie. Il lui arrive ce qui est arrivé par le passé à Robert De Niro, Jack Nicholson ou plus récemment hein, à Johnny Depp, qui n'en finit plus de se caricaturer. Alors, l'autre écueil, un peu plus gênant, encore plus, et ce n'est pas surprenant, demeure l'absence de mise en scène. Gold n'est jamais porté par une dynamique visuelle, élément indispensable à ce type de récit un peu dément, un peu bigger than life. Stéphane Kagan, à l'image de ses autres films, dont Syriana, livre un travail scolaire proche du téléfilm de luxe. Alors, malgré l'excellence d'une bande originale où l'on entend aussi bien Leonard Cohen, Television ou Joy Division, le rythme est pâteau et la réalisation se contente d'enchaîner les champs contre champs et les plans panoramiques touristiques. Alors, rien qui ne provoque le moindre vertige. Pour magnifier ce portrait d'un homme grisé davantage par la soif de l'or que par l'argent, à la fois destructeur, flambeur et idéaliste, bah il aurait peut-être sans doute fallu un cinéaste de la trempe de Scorsese, celui des affranchis et de Casino. C'est un sujet, je pense, pour lui. En l'état, Gold se laisse regarder, hein, si on arrive à supporter la prestation de Matthew McConaughey, mais face à lui, Edgar Ramirez hein, en campe un chercheur d'or remarquable, au jeu étonnamment subtil et opaque, et il est au fond le grand vainqueur du film sur tous les plans. Comprenne qui verra d'ailleurs.
Le film est sorti déjà depuis le 19 avril et ce n'est pas le cas des Gardiens de la Galaxie qui sort le 26.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Tout va bien pour Walt Disney, le studio américain ne cesse de se montrer sur tous les plans, celui de l'animation évidemment, son cœur de métier, celui de la science-fiction avec le rachat il y a quelques années de la franchise Star Wars en lui injectant de nouvelles histoires, et puis là où le studio est également très fort, c'est dans l'univers des super-héros avec le rachat il y a moins de 10 ans des studios Marvel. Alors bienvenue donc à Iron Man, Hulk, Thor ou Captain America. Sur ce terrain-là, le studio Disney bataille avec la 20th Century Fox qui produit les X-Men ou encore Deadpool et la Warner qui se garde les classiques que sont Batman en ajoutant par exemple Suicide Squad. Mais Disney semble mieux flairer les bons coups. Les Gardiens de la Galaxie sortis en 2014 avaient été une belle surprise et avaient raflé 770 millions de dollars de recettes dans le monde avec la manière. Les Gardiens de la Galaxie est une histoire oubliée des années 60 que de jeunes auteurs ont dépoussiéré et ce n'était pas si facile finalement de convaincre le public d'aller voir un raton laveur sarcastique, un arbre personnifié au nom de Groot, incapable d'aligner une phrase cohérente, Drax, le destructeur décidément, un géant brut de décoffrage, et Gamora, une créature verte, sachant qu'aucun n'a de talent surnaturel. Et pourtant, ça a fonctionné. Plongé dans un univers ultra-vitaminé, coloré, soutenu par une bande-son et des références puisées dans les années 80 et 90, le spectateur a pris sa dose de divertissement. Les Gardiens de la Galaxie, film mêlant science-fiction et faux super-héros, a décidé d'avancer, alors là, complètement décomplexé. J'avoue qu'en allant voir le second volet, j'avais complètement oublié le premier épisode, mais rien de grave, j'y ai tout de suite reconnu les recettes qui ont fait le succès du premier opus, l'humour tout d'abord, jamais les Gardiens de la Galaxie ne se prend au sérieux. Et dans le second volet, on fait d'ailleurs la connaissance d'un peuple snob avec lequel les scénaristes se sont beaucoup amusés.
Je vois tout ça en vous. La peur, la jalousie, la trahison. Il est de notre devoir de débarrasser l'univers de ces tares.
C'est drôle. On m'avait dit que vous étiez des crétins prétentieux.
Mais c'est pas vrai du tout.
Rocket.
Il y a les situations parfois invraisemblables, mais également les dialogues. Réunissant des personnages atypiques, les créateurs ont eu tout le loisir d'ajuster le ton. Le personnage du grand Drax est particulièrement réussi. Quand il prend la parole, il n'a aucun filtre. Il peut être franc ou blessant, selon le degré de susceptibilité en face.
Il y a deux catégories de créatures dans l'univers. Celles qui dansent et celles qui ne dansent pas.
Ah oui, d'accord. Je suis un danseur, pas Gamora.
Il faut que tu trouves une femme pathétique. Comme toi.
Je te remercie.
T'as besoin d'un câlin?
Non, non merci, ça va aller.
Mais si.
Non, 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 j'ai dit non.
Ça me fait plaisir.
Alors, au-delà des dialogues et d'un scénario qui en vaut d'autres, hein, une large place est faite aux effets spéciaux où la couleur domine. Le film se veut également musical. Il commence d'ailleurs avec une chorégraphie mêlant grognon contre une affreuse bestiole et pas de danse de Mini Groot, le petit personnage de Brindille. Le héros qu'incarne Chris Pratt ne quitte jamais son Walkman. Les clins d'œil aux années 80 qu'il a quitté prématurément sont omniprésents. Toutefois, la BO ne vaut pas celle d'un Tarantino. Faut pas exagérer. Les Gardiens de la Galaxie est un vrai film popcorn, avant tout divertissant et dont la réussite tient autant au personnage qu'à l'univers proposé. Et il est visible en 3D et même en IMAX avec une 3D qui n'est pas tout à fait bluffante, donc vous pouvez vous contenter de la 2D.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui?
Il va pas contrôler qui est qui, qui est qui.
Quoi, qui est qui?
À quoi, qui est qui, quoi?
Eh bien, qui a-t-il?
Auriez-vous oublié que nous partons?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
Alors, le sommaire est quasi prêt hein, pour la semaine prochaine, Manu.
Alors déjà, je parlerai de Tunnel et du nouveau film de Kore-eda.
Et pour ma part, eh bien, je vous parlerai d'un film au nom mystérieux. À mon âge, je me cache encore pour fumer.
Et puis, un blind test reviendra dans l'émission.